Une star gravement blessée, une communauté silencieuse et une vérité bien difficile à établir. L'affaire Kenji Girac a suscité cette semaine beaucoup d'émotions et beaucoup de questions. Le chanteur aimé des Français a-t-il voulu se suicider ou simuler un suicide pour retenir sa femme? Une fragilité humaine mise au jour au prix d'un travail titanesque des enquêteurs. En quelques heures, ils ont réussi à retracer le scénario qui s'est joué dans le huis clos de cette caravane. Comment ont-ils travaillé? Quelles sont les zones d'ombre qui persistent? Tous les détails avec nos invités dans un instant. Mais d'abord, retour sur ce huis clos encore bien mystérieux avec Elisa Tranin.
Quand les gendarmes arrivent peu après 6 heures lundi sur l'aire d'accueil des gens du voyage de Biscarrosse, le camp est plongé dans le noir, silencieux. Pourtant, 20 minutes plus tôt, les pompiers ont évacué un homme blessé par balle, Kenji Girac. La blessure est sérieuse, le projectile a traversé l'abdomen du chanteur. Ce dernier explique qu'il s'est tiré cette balle lui-même, par accident, avec un pistolet acheté la veille sur une brocante. Une première version qui ne colle pas avec les éléments matériels. Que s'est-il passé cette nuit-là entre les caravanes? L'omerta règne et l'arme a été dissimulée dans un buisson.
Concrètement, elle était à quelques dizaines de mètres de la caravane. En revanche, il n'y avait pas de chargeur. Il va falloir attendre 12h40, l'arrivée du père et d'un oncle de Kenji Girac. L'oncle en question est allé le rechercher dans une caravane.
Non seulement ce pistolet n'a pas pu être acheté sur une brocante, mais son analyse révèle qu'un tir accidentel est impossible. L'intervention d'un tiers est écartée également. Au moment du drame, le chanteur était seul avec sa compagne et leur enfant dans la caravane familiale. Fortement alcoolisé et sous l'emprise de cocaïne, Kenji Girac a réveillé la petite fille. Une dispute a alors éclaté avec sa femme. Celle-ci a menacé de le quitter. Il a voulu lui faire peur en simulant son suicide, a-t-il rapporté au procureur.
Je voulais faire entendre le bruit de la détente à Soraya. Je voulais qu'elle me dise d'arrêter et qu'elle ne parte pas.
Un geste tragique qui aura mobilisé des dizaines d'enquêteurs pendant 3 jours.
Et avec nous, pour comprendre les dessous de cette enquête, le général François Daoust, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, professeur de sciences criminelles à l'Université de Cergy-Pontoise. Raphaël Nedilko, bonjour. On est ravis de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes officier de police judiciaire au commissariat de Chalon-sur-Saône, auteur notamment du livre L'Obstiné, Confession du flic qui exhume les cold cases chez Studio Fact. On a besoin de vos lumières pour essayer de comprendre. On va vraiment s'intéresser avec Dominique à l'enquête qui a été menée. Enquête, Raphaël Nedilko, il faut d'abord le dire, et vous vous connaissez pour avoir mené des enquêtes dans des communautés gitanes. Difficile, parce qu'il s'installe une omerta immédiatement.
Oui, alors moi, la situation était un petit peu différente dans la mesure où il n'y avait pas cette pression médiatique, oui. Hein, puisque s'il s'était agi d'une autre personne que Kenji Girac, je pense que ça aurait fait l'objet de deux lignes dans les faits divers. Oui, j'ai eu à traiter deux affaires distinctes, une affaire de meurtre, stricto sensu, entre membres de la communauté des gens du voyage, des membres rivaux, et une tentative de meurtre donc avec des coups de feu tirés au travers d'une caravane au 44 Magnum, vous voyez, on reste dans les gros calibres. Et c'est vrai que la difficulté, ça a été justement d'imposer les actes de police. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont connus pour être assez réticents à l'arrivée des forces de police. Hein. De par leur définition, on est appelé par le terme de Schmitt, hein, donc on n'est pas du tout apprécié par cette communauté-là. Le petit avantage que j'avais, c'est que je connaissais la victime, qui était le frère d'un des membres de cette communauté que je connaissais depuis l'enfance. Donc j'ai pu, d'un point de vue humanité, faire connaître mes intentions, qui étaient celles justement d'établir la vérité, mais force a été de constater que pour effectuer ne fût-ce que les constatations de scènes de crime, les constatations balistiques avec un expert que j'ai fait venir en grande urgence, ça a été compliqué.
Là, ça a été le même cas, c'est-à-dire qu'il a fallu beaucoup de temps avant de pouvoir lancer les investigations. Oui. C'est du temps pour les enquêteurs en général où il peut se passer beaucoup de choses qui nuisent à l'apparition de la vérité.
Oui, beaucoup de choses, à la fois dans les témoignages qui n'existent pas, donc qui sont perdus, mais également dans les éléments indiciels. Quand on connaît, il faut savoir où on doit trouver l'arme, parce qu'elle a été jetée, où a été trouvé le chargeur, parce qu'il a été jeté et écarté. Donc on voit bien que tout a été manipulé, plus ou moins effacé, etc. Donc on voit bien que cette communauté repliée sur elle-même ne veut pas que les forces de l'ordre, quelles qu'elles soient, interfèrent, même quand c'est dans leur propre intérêt.
Est-ce qu'on connaît la provenance de cette arme ?
Alors, pour l'instant, là, l'enquête n'est pas terminée en la matière. Non, elle est pas connue. Mais les premières déclarations du chanteur ne semblent pas très étayées.
C'est pas une arme légale, détenue légalement?
Ah, non. Là-dessus. Et là, il y a un fichier national qui est avec le service central des armes, qui est, elle n'est pas répertoriée. Ce qui fait que c'est pas une arme détenue légalement.
Et elle n'est jamais apparue dans une affaire judiciaire, c'est ce qui est apparu aussi dans l'enquête. Il y a l'omerta, et puis il y a, vous le disiez d'ailleurs à juste titre, la pression médiatique, c'est-à-dire qu'on est sur une personnalité publique très aimée des Français, donc il y a une pression très forte. Ça aussi, ça change la donne quand on mène une enquête.
Oui, j'ai été confronté de nombreuses fois avec mes collègues des situations comme par exemple la tentative de meurtre sur Bertrand Delanoë lors des premières nuits blanches, l'affaire Ilan Halimi, hein, ce jeune de confession juive enlevé, torturé et assassiné par Youssouf Fofana et ses lieutenants. Oui, il y a une pression qui s'exerce. Alors, il est évident que la pression médiatique, elle est normale, c'est-à-dire que les citoyens ont besoin de savoir ce qu'il se passe, hein, savoir que leur sécurité est garantie, que tout est fait pour faire cesser ces atteintes inacceptables. Mais pour nous, enquêteurs, ça complique, puisque justement, par rapport à la charge qui est habituelle, cette charge émotionnelle habituelle, s'exerce une pression supplémentaire.
Je voudrais qu'on comprenne comment, avec l'omerta, avec la charge médiatique, les enquêteurs ont réussi à aller aussi vite, parce qu'au final, le procureur a fait cette conférence de presse ultra détaillée, à 1h30 jeudi, pour expliquer tout le travail qui avait été fait et permettre à la vérité d'émerger, vérité finalement d'un drame humain. Notamment dans cette caravane. Il y a un travail titanesque qui a été fait dans cette caravane générale.
Oui, là c'est le travail de criminalistique qui a été fait dès qu'ils ont pu rentrer. Ils ont déployé les moyens nécessaires. Les techniciens d'identification criminelle ont relevé toutes les traces qu'il pouvait y avoir. Et il y en avait un certain nombre. À la fois, on retrouve un impact de la balle dans le canapé, dans le sol, ce qui fait que ça donne un angle de tir.
Après, on fait ça comment ?
Pardon ?
On fait ça comment ? Comment on arrive à définir ça ?
Alors déjà, c'est assez reconnaissable. Et puis dans le canapé, il y a ce qu'on appelle une nébulisation, c'est-à-dire la transfixation de la balle qui traverse le corps du chanteur. Derrière, on a le sang qui est vaporisé. Ce sont des micro-gouttelettes, ça fait comme un nuage, ce qui fait que c'est immédiatement repérable. Et même si ça, il y avait eu une tentative de l'effacer avec du Blue Star, on aurait pu le retrouver. Donc à partir de ce moment-là, on sait que par rapport au point de sortie du corps, on a le canapé. Ça va au-delà du canapé, puisque ça va traverser le sol de la caravane. Et le canapé, le sol, donne un angle de tir qui va être complété par le scanner médical du chanteur qui donne la trajectoire de la balle à l'intérieur du corps. Et à partir de ce moment-là, on peut replacer le chanteur sur la scène de crime. On peut voir s'il y avait la place pour qu'il y ait quelqu'un d'autre devant lui ou pas. C'est ce qui a été fait. Et au fur et à mesure de toutes ces constatations balistiques, à la fois trajectographie, mais également sur l'arme, comment elle se déclenche, comment on peut tirer avec, sachant que c'est un Colt 45 qui a une pédale à l'arrière de la crosse, qui est une des sûretés qui existe sur cette arme, qu'il faut absolument exercer une pression forte sur la crosse pour pouvoir l'enfoncer, et ça permettra alors de mettre un doigt et d'appuyer la queue de détente, qu'on appelle communément la gâchette, mais qui est la queue de détente, et faire partir le coup. Donc tout ça, ça a été vérifié en laboratoire, qu'il n'y ait pas de possibilité de départ de coup accidentel, mais qu'il y ait bien la volonté de préhender cette arme et d'appuyer.
Pour compléter ce qui est déjà complet, il y a la balistique, le type d'arme, type de munition, voilà. Et il y a la balistique lésionnelle, c'est un autre métier que font des médecins légistes qui vont vous poser la question, donc parler de la trajectoire de la balle. C'est déterminant. Dans l'affaire de la mort du préfet Erignac, eh bien, il y avait toute une discussion sur le point d'entrée de la balle, le point de sortie, parce que la balle avait une trajectoire descendante. Or, Ivan Colonna était petit. Le préfet était très grand, ça se passait dans une rue qui montait, donc le préfet arpentait cette rue qui montait pour aller rejoindre sa femme au théâtre, et donc les avocats d'Ivan Colonna ont dit c'est impossible que ce soit Ivan Colonna qui ait tiré, parce que plus petit que le préfet, la trajectoire, elle devait être montante. Or, elle était descendante. Après, il y a eu une discussion sur le préfet qui se serait baissé, caché. Et vous savez comment on fait? Pardon, c'est, mais, eh bien, on fait passer des traits quand on a la personne. On fait passer des tringles, pour voir. On remet la personne dans la position. C'est ce qu'on a fait pour le préfet Erignac. Et on regarde les trajectoires qui ont été suivies par la balle du point d'entrée vers le point de sortie. On a une idée à peu près de ce qui a pu se passer.
Si je peux me permettre de réagir, l'enquête sur le site se fait de deux façons. Il y a deux phases. Il y a la phase criminalistique stricto sensu qui a parfaitement été relatée par le général. C'est-à-dire que là, on va rechercher les résidus de tir, on va faire justement l'étude balistique stricto sensu. Et après, on va la confronter dans un deuxième temps aux éléments testimoniaux. C'est ce qu'on appelle l'expertise différenciée pour voir si justement les éléments ramenés par les sujets correspondent avec les éléments constatés. C'est très important parce que c'est là qu'on permet de lever des incohérences et qu'on découvre justement les mensonges.
J'insiste, ce que vous dites, c'est intéressant. C'est-à-dire que la science, et on sait ô combien elle est précieuse, et puis même dans un climat d'omerta, entendre les gens, recouper des informations, réussir à les faire parler.
C'est ça. Ce qui est très important, c'est de savoir, lorsqu'une personne vous parle, et là je parle de toute enquête confondue, dans tout ce qui est langage corporel et programmation neurolinguistique, ce qui est plus important, ce n'est pas ce que la personne vous dit, c'est ce qu'elle ne vous dit pas. Qu'est-ce qu'elle cherche à cacher? Qu'est-ce qu'elle a le plus à perdre? Et c'est vrai qu'au cours de l'évolution de la médiatisation de l'affaire au cours de la semaine, on voyait que on pouvait trouver d'ores et déjà, d'emblée, la solution à ce problème dans ce qu'il cachait, dans ce qu'il y avait à cacher.
Ce qui est fascinant, c'est que tout ça s'est aussi joué dans un espace très petit et très clos.
Oui, mais qui a demandé des moyens importants pour justement balayer, comme disait monsieur avec juste raison, l'ensemble des hypothèses possibles et imaginables, et qui ont été confrontées. C'est ce qu'a fait le procureur quand il est allé suite à l'interrogatoire et à l'audition par les gendarmes du chanteur. Ses premières déclarations d'un accident, d'une manipulation, ne pouvaient pas correspondre à ce qu'il y avait comme constatation. À partir de ce moment-là, c'est dire, ça marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Et c'est là où il a parlé de simulation de suicide pour influencer sa compagne, etc., etc. Mais c'est la confrontation des constatations, des examens scientifiques ou expertises et de tout ce qui est l'environnement et les déclarations, parce que la déclaration de l'épouse a été aussi déterminante et corroborée par d'autres examens techniques qui ont été ceux du téléphone de l'épouse et à qui elle a appelé, à qui elle a envoyé les SMS, etc., etc.
J'ajoute aussi que l'arme en elle était symbolique. Il faut savoir, c'est qu'on acquiert ce type d'arme pour des raisons qui sont avérées. Comme le soulignait Dominique à juste titre, le Colt 45 Auto, c'est son vrai nom, de calibre 45 ACP pour Automatic Colt Pistol, est une arme emblématique qui est celle prisée des collectionneurs, mais aussi qui est l'arme du grand banditisme. Force est de constater qu'à la fin de l'année 2000, Francis le Belge a été abattu dans un café de 9 balles, c'est-à-dire la contenance étant de 7 cartouches, il a fallu que le tireur recharge et inflige les deux derniers tirs en pleine tête de sa victime. Donc, en plus, ce sont des membres d'une communauté qui ont une culture des armes. Donc, ab initio, la théorie selon laquelle on aurait eu un accident ne tenait pas. C'est quelqu'un qui était forcément connaisseur de ce type de fonctionnement d'armes.
Intéressant, parce que c'est un élément évidemment en plus passionnant de décrypter les dessous de cette enquête. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau
de
l'affaire suivante. Kenji Girac, on en reparlera à partir de 14h. C'est l'objet du long format BFM TV, la part d'ombre de Kenji Girac, ce drame humain qui s'est joué derrière tout ça pour reprendre la semaine avec les équipes de Ligne Rouge. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. Vous restez sur BFM TV dans un instant. Meurtre au collège. C'était il y a 31 ans, quasiment jour pour jour, le 21 avril 1993. Denise Descaves, la principale du collège Pierre Brossolette, était retrouvée gisant sur le sol, dans son bureau, un cordon de téléphone autour du cou, un coupe-papier dans le cœur. Qui en voulait à cette femme? Un homme a été condamné, mais de nombreuses questions restent encore en suspens. On va reprendre l'enquête dans un instant. À tout de suite.
BFM Radio.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. La suite d'affaires suivantes, c'était il y a 31 ans, quasiment jour pour jour, le collège Pierre Brossolette de la Chapelle Saint-Luc, près de Troyes, basculait dans l'horreur. Il était 13h40 quand le gardien découvre l'inimaginable. La proviseure Denise Descaves gît sur le dos dans son bureau, un cordon de téléphone autour du cou, un coupe-papier enfoncé dans le cœur. En pleine vacances de Pâques, le collège était quasiment vide. Alors, qui a bien pu s'en prendre à la principale ? Après avoir étudié de multiples pistes, un homme sera condamné à 3 reprises. Pierre Dubois, psychologue du collège, 31 ans après, ses soutiens continuent de crier à l'erreur judiciaire. On va rouvrir l'enquête dans un instant avec nos invités, mais d'abord, retour sur ce 21 avril 1993 avec Elisa Tradin.
Avez tous appris pendant les vacances l'événement dramatique qui a endeuillé notre établissement.
Le 21 avril 1993, alors que les élèves étaient en vacances, Denise Descaves, directrice d'un collège dans l'Aube, a été retrouvée morte dans son bureau. Le fil du téléphone enroulé autour du cou, le coupe-papier planté dans la poitrine. La principale a été assassinée à l'heure du déjeuner, alors qu'elle avait l'habitude de travailler seule. Exigeante, elle était surnommée la colonelle, mais le recteur d'académie ne lui connaissait pas d'ennemis.
Il y a bien entendu des difficultés, nous sommes dans un établissement qui est en zone d'éducation prioritaire, mais aucun problème particulier n'a été signalé au cours des dernières semaines.
Pas de problème avec les parents ?
Non, ni problème avec les parents, ni avec les élèves.
Les enquêteurs entendent le jardinier menacé de mise à pied. Ils suspectent un moment un toxicomane qui a confié à des proches avoir tué une femme. Il aurait pu en vouloir à la directrice de mener une enquête sur le trafic de drogue dans le quartier, mais il est relâché. Reste le directeur de la section d'études spécialisées du collège. Pierre Dubois et Denise Descaves ne s'apprécient pas. Et justement, sur la scène de crime dans la poubelle, un rapport au vitriol sur le psychologue scolaire a été retrouvé déchiré en petits morceaux. Après des aveux en garde à vue, il assure finalement qu'à l'heure du crime, il se trouvait en voiture avec femme et enfant. Un alibi difficile à confirmer, l'heure de la mort n'étant pas suffisamment précise. Clamant toujours son innocence, Pierre Dubois a été jugé 3 fois pour le meurtre de Denise Descaves et condamné à 3 reprises à une lourde peine.
On va se replonger dans cette enquête avec nos invités. Philippe Sarda, bonjour. Merci beaucoup, maître, d'être avec nous. Vous êtes l'avocat de la famille de Denise Descaves. Jean-Alphonse Richard, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver, journaliste, l'heure du crime sur RTL, évidemment, tous les jours. Merci à vous deux d'être là. D'abord, comme dans beaucoup d'affaires, Jean-Alphonse, commençons par la scène du crime. Là, elle est très, très, très particulière. Elle mérite véritablement de s'y arrêter parce qu'elle choque.
Ben oui, elle choque. On est dans un établissement, dans cette petite ville, un établissement qui est en zone d'éducation prioritaire. Ouais. C'est-à-dire, on a effectivement des élèves qui sont parfois difficiles. Et puis, il y a un grand couloir. On est pendant les vacances. Il n'y a pas grand monde. Il y a un jardinier qui est affairé dans le jardin. Il y a quelques ouvriers maçons qui réparent un mur. Et puis, il y a une dizaine de personnes du personnel qui sont là, un peu disséminées dans le collège. On est à l'heure du déjeuner. On est autour de 13h, 13h30. Et Denise Descaves est toute seule dans son bureau. Elle a décidé de travailler sur des dossiers. Et puis, le concierge va passer quelques minutes plus tard, une demi-heure plus tard, et puis il va s'apercevoir que la porte de Denise Descaves est entrouverte. Donc, ça ne lui ressemble pas à Denise Descaves. Elle travaille en général en solo. Ça ne lui ressemble pas. Il va pousser la porte et là, il va apercevoir tout de suite une chaussure qui est sur le sol, un pied qui dépasse et puis le corps de Denise Descaves. Elle a été étranglée. Et puis, il y a quelque chose qui est assez frappant, c'est qu'elle a un coupe-papier qui est planté dans le cœur. Donc, évidemment, l'attaque, elle a été brutale, elle a été très rapide, et le bureau est en désordre. Il y a eu comme une lutte. Elle a résisté, la proviseure. Et on va trouver dans une poubelle un rapport, qui est un rapport disciplinaire, avec effectivement... un nom qui est cité.
Qui nous amènera à Pierre Dubois, on va y revenir.
Dont on va parler.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette scène de crime absolument horrible, le cordon de téléphone autour du cou, le coupe-papier. On a, maître, des horaires assez précis, parce qu'elle a une assistante qui va aller déjeuner. C'est-à-dire qu'on a une idée très précise de l'heure à laquelle elle a été tuée. Et ce sera important.
Absolument, et ça a eu une importance négative, puisqu'on sait qu'elle est seule à partir de midi, et de mémoire, le corps est retrouvé vers 13h40. Or, on a un médecin légiste qui va fixer l'heure de la mort à partir de 13h45. Donc, il va commettre une erreur, ça arrive. Mais ça, c'est l'importance négative. L'importance positive, c'est que dans le cadre des investigations, une remise en situation sera faite quelques années plus tard et va permettre de dégager les créneaux très précis, à peu près 10 minutes, durant lesquels le crime a pu être commis.
Ça, c'est fascinant parce qu'on verra que 10 minutes suffisent à tout d'un coup réintroduire un suspect qui avait été mis de côté au début et finalement qui revient dans le jeu. Il faut dire ce qui est, c'était une femme de caractère, Denise Descaves. On la surnommait parfois la colonelle. C'était une femme pas facile. Du coup, on se dit, elle peut avoir des ennemis.
C'était une femme qui avait un très fort caractère, alors qui d'un côté était vraiment respectée par la plupart de ses collaborateurs, mais qui, c'est vrai, à partir du moment, comme on dit, où elle avait quelqu'un dans le nez, ça pouvait prendre des proportions assez redoutables, et c'est ce qui se passait, c'est ce qui était en train de se passer avec Pierre Dubois.
Comment elle s'y prenait? Quelles étaient ses méthodes, Jean-Alphonse? Après, on rappelle qu'elle était dans un quartier prioritaire où il fallait aussi faire preuve d'autorité pour que ça fonctionne.
Alors, il faut savoir que dans ce établissement, il y avait pas mal de trafic de drogue. Elle veillait beaucoup là-dessus, et effectivement, de manière assez rigide. Hein, c'est une ancienne prof de gym, Denise Descaves. Elle a une poigne de fer, c'est-à-dire qu'elle ne laisse rien passer. On la craint, c'est une évidence. Elle a rappelé à l'ordre beaucoup d'élèves. Et même au sein du personnel, c'est-à-dire des collègues, des enseignants, ben parfois on s'en méfie un petit peu, parce qu'elle est très raide et assez cassante. Et c'était le cas avec Pierre Dubois.
Alors Pierre Dubois, psychologue de l'établissement, sur qui elle était en train de préparer ce fameux rapport de notation qu'on retrouve dans la poubelle?
Oui, ils se sont accrochés avec Pierre Dubois, ils ne sont pas d'accord sur certaines méthodes, etc. Donc elle rédige un rapport qui est un peu au vitriol, il faut bien le dire, hein. C'est-à-dire que c'est qui est accablant pour Pierre Dubois, qui a 50 ans, elle en a 55, qui ne fait pas l'affaire, Pierre Dubois, selon elle, il ne pèse pas, il n'est pas assez autoritaire sur certaines choses, il y a du laisser-aller. Donc voilà, elle note tout ça, elle note dans ce rapport, et c'est un rapport qui va faire mal, évidemment, à Pierre Dubois. Et on va le retrouver, ce rapport déchiré. Là aussi, il y a un geste de colère qui est patent. Il y a ce coup de papier dans le cœur qui parle beaucoup déjà. Et puis, il y a ce rapport déchiré qui là parle encore.
Alors, suspect Pierre Dubois, suspect des jeunes qui trafiquent de la drogue à l'intérieur du collège.
Oui, ça c'est effectivement, ce sont des pistes qui sont étudiées par les enquêteurs.
Elle travaillait d'ailleurs sur un rapport aussi sur le trafic de drogue. Elle essayait de recenser les noms pour les donner à la police.
Elle était très en pointe sur cette question. C'était vraiment un combat qu'elle menait pour l'établissement, mais même pour le quartier. Et ça a été une piste légitime au départ, puisque évidemment, dans ces cas-là, vous vous faites des ennemis, et des ennemis qui peuvent être dangereux.
Oui, il y a un dénommé Karim qui va apparaître comme un fil rouge d'ailleurs dans le dossier. On va le retrouver à plusieurs reprises, ce Karim, parce que elle l'a exclu de l'établissement. C'est quelqu'un qui venait vendre de la drogue dans l'enceinte de l'établissement. Elle voulait absolument faire le ménage. Et lui, ce Karim, c'est étonnant parce que le meurtre a lieu et puis Karim va aller voir sa sœur et il va lui dire, ce sont ses termes, hein, il va lui dire j'ai zigouillé quelqu'un. Donc effectivement, les enquêteurs, ils vont s'intéresser. Mais ils vont s'apercevoir que Karim, il n'a peut-être pas toute sa tête, que ce qu'il raconte, ça ne cadre pas avec le crime en question. Donc, on va le laisser de côté. Mais c'est vrai qu'on a toujours, en arrière-plan, cette histoire de trafic de drogue
qui
existe.
Et à ce moment-là, on investigue beaucoup, parce que le fameux Pierre Dubois, sur qui on s'est évidemment penché, notamment avec ce rapport déchiré dans la poubelle, il va être entendu. Et puis on va dire, ça ne peut pas être Pierre Dubois. Comment ça se passe ?
Alors, ça, c'est un des points passionnants de ce dossier, ce sont ses aveux.
Il commence par avouer.
Puisqu'il est mis en garde à vue, et il avoue très vite. Hein. Vous connaissez l'excuse des gens qui avouent en garde à vue, effectivement, en fin de deuxième journée, j'étais épuisé, j'avais été manipulé. Lui, il avoue très vite, mais il avoue quelque chose qui ne colle pas à ce que les enquêteurs pensent savoir du crime. Il dit qu'il a étranglé Denise Descaves avec ses mains. Or, on la retrouve avec le cordon du téléphone autour du cou. Il y a déjà un indice fort dans le dossier qui montre qu'il y a un étranglement manuel, mais nouvelle erreur de ce médecin légiste. Et il dit, je l'ai tué vers midi 10, midi et quart.
Ça ne colle pas. Avec...
Or, encore une fois, deuxième erreur du médecin légiste, on est persuadé que c'est beaucoup plus tard. Et du coup, et je tiens à le dire, on est dans un dossier gravissime. Monsieur Dubois, quoi qu'il ait dit pendant toute l'affaire, a quand même bénéficié d'une véritable présomption d'innocence, parce qu'avouer un meurtre de cette gravité, en garde à vue, et être relâché, c'est pas à vous que je vais dire que ça n'arrive pas tous les jours.
Il faut dire qu'il dément. Dès sa sortie, en disant, on m'aurait dit de dire que j'avais tué Kennedy, j'aurais tué Kennedy, j'étais en panique.
C'est son expression.
Il dément pas à n'importe quel moment, il dément quand on commence à s'intéresser à la piste Karim et les trafiquants de drogue.
Oui.
C'est là qu'il bouge un peu.
Oui, c'est là, il va dire, bon, voilà, il va se reprendre. Et effectivement, il y a ces histoires d'horaires qui sont très importantes parce que ça cadre pas avec l'histoire. Voilà, donc là, effectivement, il se reprend. Oui.
Et combien d'histoires où les horaires ont tout fait basculer? L'affaire Dils, Patrick Dils, qui finalement, c'est pas lui. Et puis, il y a des témoins qui vont modifier leur déclaration en disant, non, finalement, on a entendu des cris, mais entre telle heure. Et ça va emmener Patrick Dils devant une cour d'assises qui va le condamner. Et il y a beaucoup d'histoires. D'ailleurs, on a fait entrer l'accusé sur Denise Descaves et l'affaire Dubois où vous avez participé, maître. Hein. Mais il y a tout un tas d'histoires comme ça où ce qu'on dit les légistes, ça devient parole d'évangile et on ne peut plus en sortir. Alors qu'en fait, il peut y avoir des erreurs. Ce qu'on dit les légistes sur l'heure, mais ce qu'on dit aussi les légistes sur les conditions de la mort, la façon dont la personne a été tuée. Là aussi, c'est parole d'évangile. Et des avocats comme vous d'ailleurs, mais quand vous êtes de l'autre côté, quand vous défendez l'accusé, s'en servent en disant, attendez, vous êtes gentil, moi le légiste m'a dit 13h13, ouais. C'est 13h13.
C'est fascinant, c'est parce pas qu'en 35. Fait, il est protégé par le médecin légiste, ben entre oui, guillemets, protégé, évidemment. Épargné.
Oui, parce qu'à ce moment-là, il faut quand même le préciser, il est en route avec sa famille, ouais. Ils partent dans la maison de campagne. Donc,
alibi, ne peut pas être assis.
Alibi, il ne peut pas être dans total. Le bureau de Madame Descaves et puis sur la route.
Comment ça se retourne, maître?
Alors, ça va se retourner de plusieurs façons. D'abord, le juge d'instruction va quand même pas être totalement convaincu par ce rapport, parce qu'on se rend très vite compte qu'il donne une fausse heure du crime, puisque encore une fois, au début de sa tranche horaire, tout le monde est déjà autour du cadavre, donc ça colle pas. Et donc la juge d'instruction, non, c'est un monsieur à l'époque, le juge d'instruction va envoyer le rapport d'expertise et les photos à deux grands experts, dont Monsieur Durigon, pour leur demander ce qu'ils en pensent. Et là, ils vont faire une constatation, quand on s'y connaît en médecine légale, on le voit tout de suite, qui est la rupture, la fracture de l'os hyoïde.
Ce petit os qu'on a ici.
Ce tout petit os qui est ici, et dont on sait, c'est le béaba en médecine légale, qu'il est causé par l'étranglement manuel. Mm-hmm. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, ouais. Si ça vous intéresse, je vous explique, mais voilà, on sait qu'un os hyoïde cassé, c'est... Ouais. Au moins au début, un étranglement manuel. Et donc, ce qui conclut au fait qu'il a d'abord étranglé manuellement, puis attrapé le fil du téléphone, ce qui est très commun en criminologie. Hein, l'étranglement manuel est plus efficace que l'étranglement ouais. Par lien, mais dans l'esprit du meurtrier, c'est pas le cas. Et puis surtout, c'est plus facile de tenir sa victime quand on a un lien que quand on doit la contenir avec les mains. Et donc là, il y a cette deuxième partie du rapport qui se casse la figure. Et où on voit que, avant l'étranglement au lien, il y a eu un étranglement manuel. Et c'est là que les aveux de Monsieur Dubois vont un peu revenir au centre de l'actualité du dossier.
L'étranglement manuel qui donc colle avec les premiers aveux, les horaires qui collent. Pierre Dubois, on va aller vite, va être jugé trois fois. Trois fois, il sera condamné pour le meurtre de Denise Descaves. Et pourtant, lui continue à dire qu'il est innocent. Ses soutiens continuent à dire on n'a pas tout étudié dans ce dossier. Est-ce que c'est vrai?
Je suis mal placé pour le savoir. Je peux pas savoir si c'est vrai ou pas. Le fait est, c'est qu'effectivement, il y a deux clans qui sont se dessiner très vite. Hein. Les pros du bois et puis les anti du bois. Effectivement, ça existe.
Est-ce qu'on peut dire quand même qu'il va y avoir un travail de police scientifique ouais. Incroyable, puisque Madame Dubois, quand elle est Madame Descaves, quand elle est tuée, elle porte une veste noire. Et quand on analyse sa veste, on va retrouver 213 fibres de tissu d'un autre tissu, pas celui de sa veste, dont 65 de couleur verte, qui correspondent à celles d'un jogging. Et on va faire une perquisition donc, chez Monsieur Dubois. Il a un jogging vert, dont les fibres sont exactement les mêmes que celles retrouvées sur la veste de Madame Dubois. Ça veut dire qu'il y a eu contact physique entre eux. Comme il se déteste, on peut imaginer qu'il n'était pas son amant et qu'elle ne l'a pas pris dans ses bras. Donc, comment les fibres du survêtement vert de Monsieur Dubois, qu'on voit d'ailleurs, le gardien dit qu'il a vu un homme en survêtement vert qui faisait des exercices au moment à peu près
sur la pelouse,
où Madame Dubois va mourir. Donc, c'est lui, c'est carré, non ?
Alors là-dessus, pardon maître, mais maître Pelletier, qui à l'époque défend Dubois, lui, il va dire, non, attendez, les fibres, c'est bien beau, mais c'est 65 fibres de jogging. Tout le monde porte ces fibres, elles sont internationales.
Un jogging de grande
elles auraient pu être propagées par...
L'argument n'a jamais porté, contact. Pour une raison simple, c'est que le malheureux Monsieur Dubois avait acheté ce jogging dans un supermarché et c'était donc un vêtement bas de gamme. Et bizarrement, j'ai appris dans ce dossier que les vêtements bas de gamme, c'est des textiles de récupération, vous savez, qui sont retraités. Et donc, vous avez un mélange effrayant à l'intérieur. Vous avez un peu de laine, vous avez un peu de synthétique, un peu de coton. Et là où
mais pas du
ça
vert
le
dans tous les morceaux.
Tue, non, mais là où ça le tue, c'est qu'on retrouve la même proportion de coton, de synthétique et de laine sur la veste de Madame Descaves, que dans la composition de son pantalon de jogging. Donc, c'est vrai que mon confrère Pelletier s'est donné beaucoup de mal à l'époque pour dire, mais attendez, c'est un vêtement de supermarché, n'importe quel dealer du coin pouvait porter le même. C'était difficile à convaincre. Il aurait eu une marque de luxe sur lui, il aurait sans doute eu un seul type de fibre qui composait son vêtement, et là, c'était beaucoup moins probant.
Et ben, ce jour-là, maître, vous avez été plus convaincant que maître Pelletier. On le salue, il nous a quittés, mais ouais, plus convaincant que lui, et c'était pas facile.
Et Pierre Dubois a été condamné à 3 reprises, on le disait. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur le plateau d'Affaires Suivantes. Passionnant de se replonger dans cette affaire. Tout de suite, les invités de la semaine. Il nous passionne, il nous laisse impuissants. Parfois, les cold cases hantent l'histoire judiciaire. Autant d'affaires non élucidées qui pourtant, parfois, rebondissent. Une trace ADN, un témoignage, un détail et tout bascule. Ce sont ces affaires qui sont au cœur d'un livre qui vient de paraître. Cold case, 10 crimes, 10 victimes, 10 revirements spectaculaires. Les deux autrices seront nos invités dans un instant pour reprendre ces enquêtes. Mais d'abord, plonger dans l'une d'elles. Comment l'affaire Cécile Bloch a-t-elle abouti 30 ans après la mort de cette fillette de 11 ans? Tous les détails avec Elisa Trin.
Elle est la première proie de celui que l'on surnommera le grêlé à cause de sa peau marquée. Cécile Bloch, 11 ans, a été violée et tuée le 5 mai 1986 au troisième sous-sol de l'immeuble de ses parents. À l'époque, les témoignages permettent d'établir un portrait robot du tueur, un homme d'environ 25 ans. Mais il faut attendre 10 ans de plus pour qu'un profil ADN puisse être établi.
Il y a eu énormément d'enquêtes, énormément de techniques nouvelles de police technique et scientifique qui n'existaient pas en 1986. Ce portrait robot était sans doute un dessinateur qui l'a fait. Oui. Maintenant, c'est beaucoup plus sophistiqué.
Le frère de Cécile, biologiste, insiste pour que des analyses ADN soient pratiquées sur les scellés. Mais la famille se heurte longtemps à la lenteur de la machine judiciaire. En 2021, persuadée que le tueur est un ancien membre des forces de l'ordre, la juge turquée convoque 750 gendarmes pour confronter leur ADN à celui du tueur. Certain d'être démasqué, François Vérov se donne la mort 2 jours avant son rendez-vous à la PJ. Dans une lettre, il avoue ses nombreux crimes, dont celui de Cécile Bloch. 36 ans après les faits, les proches de la petite fille ont enfin obtenu le nom de son meurtrier, mais à leur grand regret, ne pourront jamais le voir condamné lors d'un procès.
Et ces affaires à rebondissement, à l'image de celle de Cécile Bloch, on en retrouve plein dans cet ouvrage. Cold Case, 10 crimes, 10 victimes, 10 revirements spectaculaires. Les deux autrices sont avec nous. Bonjour, Cyril Adam.
Bonjour.
Bonjour, Marion Garnier. On est ravis de vous accueillir. C'est aux éditions Larousse. C'est passionnant de se replonger dans ces 10 affaires. On va en reprendre quelques-unes avec vous. D'abord, un petit mot, parce que vous êtes toutes les deux journalistes. Vous êtes réalisatrices, vous travaillez sur les faits divers depuis très longtemps. Pourquoi vous êtes intéressé spécifiquement à ces affaires qui rebondissent? Nous, elles nous passionnent, elles nous fascinent. Et c'est vrai que quand il y a un rebondissement, c'est déjà quelque chose pour les familles qui est important. Vous parlez beaucoup des familles.
Nous, c'est ce qui nous a poussé à travailler sur ces affaires non élucidées. C'est le combat de ces familles qui se battent pour que la vérité finisse par éclater et qui sont capables de combattre la prescription, de combattre des fermetures de dossiers. Et qui n'arrêtent jamais, en fait. Leur ténacité, ça a toujours forgé notre admiration à toutes les deux.
C'est la plus grande force d'un cold case, c'est la famille qui se bat.
C'est la famille qui se bat, ce sont aussi parfois les enquêteurs, les magistrats qui reprennent les dossiers. Ce qui est très intéressant sur les cold case, en fait, c'est de voir comment, au fil du temps, le fait divers, comme on dit classiquement, évolue et devient un fait de société. Puisqu'en fait, la façon dont il va être traité, la façon dont la famille va ou non s'engager, donne une dimension sociétale à ce fait de société, à ce fait divers.
Et Cyrielle, Marion, c'est vrai que tous les cold cases ne sont pas traités de la même façon. Parfois, ouais, les enquêteurs, oui, la justice veut absolument que ça sorte. Puis aussi, parfois, des magistrats ou une justice ou des procs qui disent « Cette histoire, elle nous embistrouille, on ne sait pas quoi en faire. »
Elle nous embistrouille,
mettons.
Elle nous dérange,
c'est un mot de la Saône-et-Loire, pardon. Elle nous dérange, quoi, on en a marre, dès qu'on la met un peu sous la pile, puis elle disparaît. Donc si la famille n'est pas là, et si vous, les journalistes, vous n'êtes pas là pour dire « Hé, Coco, magistrat, policier, fais un peu ton boulot.
Bien sûr, bah, surtout dans les cas de disparition. En fait, dans les on fait plusieurs affaires de disparition. Ouais. Et dans les années 80, même les années 90, honnêtement, un individu majeur qui disparaissait, on avait vite tendance à classer l'affaire.
Les disparus de Mourmelon, Cyrielle. Les disparus de Mourmelon.
Alors moi, c'est Marion.
Marion,
c'est mais c'est pas
Marion,
grave.
Serait, vous
il y a bien de vacances, ne vous inquiétez pas. Puisqu'on parle des disparitions, prenons des exemples qu'il y a dans votre livre. Vous parlez d'adultes. Stéphane Dietrich, typiquement, 94, je parle sous votre contrôle, il va partir en vacances. La veille au soir, il vit chez ses parents.
On le retrouve mort. Il doit partir en vacances. On le retrouve mort dans un bois. Il a reçu 11 coups de couteau. Et dès le départ, il y a une piste assez évidente dans cette enquête, qui est celle de l'ami avec qui il devait partir en vacances. Oui. Mais là, c'est vrai que les enquêteurs jouent de malchance parce qu'arrive une autre piste par un témoignage anonyme qui met les enquêteurs sur la piste d'un meurtre commis à la fête foraine en rapport avec les gitans. Donc, ça prend du temps de retrouver ces témoins. Et en fait, au bout d'un moment, les enquêteurs sont dans une impasse et ils décident de classer l'affaire. Alors que dans le dossier, depuis le début, il y a la piste de cet ami.
Et c'est là où s'illustre le poids des familles du frère de Stéphane Dietrich, qui ne lâche pas, qui va même y consacrer sa vie. C'est assez émouvant à lire. C'est grâce à lui qu'on va élucider cette affaire.
Il va créer cette association, il va donner des concerts, il va aller placarder toutes les villes possibles pour savoir si quelqu'un aurait une information. Et même lors de la fermeture du dossier, il continue, il ne s'arrête jamais.
Comment ça se dénoue? C'est un flyer, c'est ça qu'il donne?
Il y a deux choses, ouais. Il y a à la fois une émission de télévision qui parle de l'affaire Dietrich, ouais. Et il y a aussi un flyer
distribué par
Sylvain Dietrich. Et ça va faire révéler à un témoin clé qu'en fait, en 94, il avait été approché par un homme pour tuer quelqu'un d'autre. Et cet homme, il arrive à identifier. Pour lui, c'est le surveillant du collège dans lequel il était. Et il arrive à le mettre en lien avec l'émission de télé qu'il a vue. Émission dans laquelle, en plus, un prénom d'usage avait été utilisé pour préserver son identité. Et il arrive à refaire le lien, en fait. Il n'avait pas fait en 94. Et là, il le fait. On est plus de 20 ans après les faits.
C'est fascinant, on est 20 ans après, c'est le combat d'un frère, c'est fou. Autre affaire de disparition qui a touché tout le monde, celle de Jonathan Coulon, ce petit garçon, on est en avril 2004, il part en colonie de vacances à Saint-Brévin-les-Pins. Quand on dit Saint-Brévin, je pense que tout le monde se resitue cette affaire. Et puis on va appeler sa famille, on va lui dire, il a fugué. Malheureusement, ce n'est pas une fugue.
C'est un petit garçon qui va bientôt fêter ses 11 ans, il est parti en classe de mère. Il est avec son école, il arrive du Cher, il n'a jamais vu la mer, il est très heureux. Et puis, un matin, dans le dortoir, il a disparu. 5 autres enfants dorment encore et disent « Jonathan n'est plus là ». Et donc, ils le cherchent. C'est vrai qu'au départ, les gendarmes disent « il a peut-être fugué », ce qui est quand même assez étonnant, puisque le petit, il est parti en pleine nuit, il pleuvait, il est en pyjama, pieds nus, il n'a pas pris d'autres vêtements, donc ça semble un petit peu incompréhensible. Et puis, on va retrouver son corps 6 semaines après, dans un étang, ligoté, dénudé. Et là, il y a une expertise médico-légale qui va orienter les investigations, parce que le médecin légiste va conclure que l'enfant est mort quelques semaines après son enlèvement, c'est-à-dire que l'auteur des faits aurait séquestré ce petit garçon. Donc, les gendarmes se disent, pour avoir les moyens de séquestrer un enfant, il faut être du coin, il faut avoir une habitation quelque part. Parce qu'en fait, son corps est retrouvé à Guérande, l'enfant a été enlevé à Saint-Brévin, une trentaine de kilomètres, on est dans la même zone. Ouais. Et c'est vrai que c'est ce qui fait que les enquêteurs français n'écoutent pas les enquêteurs allemands, qui sont pourtant venus les voir rapidement, pour dire, mais nous, on a en Allemagne des enlèvements d'enfants similaires, des modes opératoires totalement similaires.
Une signature.
Le fameux homme en noir, comme on l'appelle à cette époque-là en Allemagne, avec des disparitions d'enfants. Les gendarmes, vous le dites, n'écoutent pas, privilégient leur thèse française jusqu'au jour où, là aussi, ça va se retourner.
Et encore, ils ont eu du mal à y croire, parce que même quand le fameux homme en noir est arrêté en Allemagne en 2011, il y a une conférence de presse qui est donnée par les gendarmes en France et qui est très claire. Les gendarmes disent... Ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. On reste vraiment sur notre piste locale. On suit les conclusions médico-légales qui ont été données. Ce n'est pas lui. Alors que vraiment, on est sur un mode opératoire qui est le même. Des petits garçons qui se ressemblent tous étrangement, qui ont des âges équivalents. Ouais. Tous sont enlevés en pleine nuit dans les centres de vacances. Et tous sont retrouvés dans des conditions assez similaires.
Et vous, je me plante plus, hein, Marion Sirien, pardon. Et vous, donc, vous pensez que les gendarmes français, vous pensez que c'est plutôt cet Allemand, le suspect ?
Aujourd'hui, c'est lui qui est mis en examen, en tout cas.
Parce que les gendarmes français, dont celui qui avait l'enquête, hein, qui s'appelle André Corbel, qui est un ancien de la SR Versailles, est plutôt un enquêteur calibré, mais lui, il ne voulait pas y croire, alors.
Moi, je pense que c'est pas tellement qu'il voulait pas y croire, c'est que 2004, ça semble pas très loin, mais déjà la coopération judiciaire n'était pas la même entre les pays européens. Les expertises de scènes de crime, l'analyse criminelle aussi n'était pas la même. Donc, en fait, rapprocher des éléments, enfin, des faits sans éléments matériels autres que le mode opératoire est exactement le même. Le profil de l'auteur est exactement le même. Peut-être que les enquêteurs, au moment, ne réfléchissaient pas aussi avec les éléments qui sont aujourd'hui à leur disposition.
Ouais.
Et cette affaire aujourd'hui, elle est relancée parce que cet homme en noir, il a été prêté à la France, il a été condamné en Allemagne, il a été prêté à la justice française, il a été auditionné et il y a un procès qui ne devrait plus tarder dans les prochains mois.
On devrait savoir bientôt s'il est renvoyé ou pas.
Ouais. Ouais.
Mais ce qui est sûr, c'est que dans ce dossier-là, il y a des témoignages, il y a un témoignage au tout départ de l'affaire qui parle de la présence d'un véhicule allemand.
Oui.
Donc, il y a quand même des éléments dès le départ. Mais effectivement, à l'époque, il y a des constatations médicales.
Et Oman, on n'en parle pas, on n'a plus le temps.
On n'a plus le temps, on va renvoyer vers l'ouvrage, mais peut-être un mot quand même. Qu'est-ce qui vous, en un mot chacune, vous fascine dans toutes ces histoires ?
Vas-y. Ce qui me fascine, ce sont ces histoires qui rassemblent tous les sentiments humains et la notion de passage à l'acte. Pourquoi est-ce que quelqu'un tue et comment, quels moyens la société est prête à engager pour aller au bout des enquêtes? À quel moment on renonce? Est-ce qu'on doit renoncer? Pour qui on ne doit pas renoncer?
Et
pas seulement pour les familles, pour qui on doit continuer?
Pour
pas répéter ce que ma consoeur dit, pour moi c'est plus de l'intérêt en fait. Et c'est de l'intérêt, c'est la volonté de vouloir mettre en avant ces gens, on a parlé des familles, mais on parle aussi, il y a des enquêteurs qui sont très investis. Aujourd'hui, on est dans une société où enfin, on accepte de s'être trompé à un moment et on accepte de rouvrir des dossiers en se plongeant quand même face à nos erreurs et en acceptant de dire « on peut trouver ». Et le crime parfait ne doit pas exister.
Passionnant. Cold Case, Chéché, Larousse, Cyrielle Adam, Marion Garnier, merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Affaires Suivantes. On est ravis de vous recevoir.
Merci.
Dominique, on se dit à dimanche prochain ?
On est tous les deux dimanche prochain.
On est tous les deux dimanche prochain. Merci beaucoup. Passez un bon dimanche sur BFM TV la semaine prochaine.